Bonjour Nouvelle-Ville-la-Prairie, est-ce que vous allez bien?
Oui.
Content de vous voir aujourd'hui. Et alors que je vais commencer le message, avant ça je vais demander aux préposés de distribuer les éléments pour la communion. On va prendre la communion à la fin du message ensemble. Et la communion est le symbole du repas du Seigneur qu'il a pris avant d'aller à la croix. Alors on va prendre ensemble le pain, le jus qui représente le corps de Christ qui à la croix a été brisé et son sang a coulé pour nous. Alors on va le prendre. Prenez la petite coupe, il y a le pain et le vin qui est ensemble. Il y a des gens qui nous visitent à chaque semaine d'autres églises et parfois on n'a pas l'habitude de le prendre comme ça. Le pain et le jus sont dans la même coupe, il y a juste une petite pellicule à enlever. Faites juste attention à ne pas trop appuyer quand vous enlevez la pellicule pour ne pas éclabousser partout les gens autour de vous. On veut quand même rester en bon terme avec tout le monde. Et chacun peut la prendre, vous pouvez la mettre à côté, elle est fermée, il n'y a pas de problème, ça ne va pas couler. Par contre, on prend vraiment la communion ensemble pour ceux qui sont nés de nouveau. Alors si vous êtes là en visite, c'est peut-être la première fois que vous venez à l'église, vous pouvez juste la mettre de côté, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise. Et la parole de Dieu nous dit de prendre la communion en tant que chrétien du corps de Christ. Donc ceux qui sont nés de nouveau, on puisse la prendre parce qu'on va ensemble venir célébrer et communier le sacrifice de Jésus. La parole de Dieu nous dit d'avant prendre la communion, de s'examiner soi-même pour que personne ne la prenne indignement. Alors aujourd'hui, il n'y a personne qui est condamné par Dieu, mais tout le monde est invité à revenir à la croix. Et c'est pour ça qu'on la prend à la fin du message, parce que je veux qu'on puisse ensemble, tous, pendant le message, voir encore combien Jésus est bon, combien il est grand, combien il est amour et combien il nous sauve. Ce n'est pas nos péchés, ce n'est pas nos fautes qui nous disqualifient, c'est sa croix au travers de notre acceptation comme sauveur et Seigneur qui fait que nous puissions prendre la communion ensemble. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu pour son sacrifice et le fait qu'on puisse prendre la communion ensemble? Et dans le Nouveau Testament, les gens prenaient la communion ensemble et ils rompaient le pain et le vin. Ce n'était pas seulement un symbole qu'ils prenaient ensemble, il y avait vraiment un temps de communion. Et je suis vraiment content qu'il y ait le pique-nique après la réunion parce qu'on va faire comme dans les Actes des Apôtres où on va rompre le pain ensemble, on va prendre un temps de communion. Donc si vous ne l'avez pas, allez chercher votre lunch après la réunion et revenez avec nous parce que c'est toujours un moment. Même si vous prenez une heure de votre temps avec nous, il y a toujours des gens qu'on ne connaît pas et qu'on fait partie de la famille. Donc c'est bon de se revoir en famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, aujourd'hui, on continue la série « Découvrir Jésus » et on va parler d'un thème aujourd'hui qui me tient à cœur. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Maintenant, je vois ». On va regarder à une rencontre de Jésus qui, dans l'évangile de Jean, est extraordinaire. C'est la rencontre de Jésus avec un aveugle, quelqu'un qui est né aveugle. Et alors qu'il y a toute une histoire dans le chapitre 9, si jamais vous lisez avec votre Bible, vous pouvez aller tout de suite le chercher, chapitre 9, on va le lire ensemble. Il y a quelque chose de fort qui se passe à ce moment-là. Et cet homme s'écrie d'une voix forte, il y a quelque chose de fort qui est le c'est pour ça que c'est le titre du message. Il a comme une vérité à dire à tout le monde, c'est « Maintenant, je vois ». J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Et si je pouvais passer le micro à chaque personne ici, ou en tout cas à des centaines de personnes ici, il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire la même chose. C'est pas un côté « j'étais aveugle physiquement », mais spirituellement, j'étais aveugle. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai découvert Jésus, j'étais aveugle et maintenant je vois clair, parce qu'il est la lumière du monde. Et peu importe ta situation aujourd'hui, peu importe dans quel état tu es spirituellement, peut-être tu te penses le plus loin ou tu te penses peut-être justement le plus proche de Jésus. Jésus veut encore une fois te montrer quelque chose de plus clair. Il veut être encore plus la lumière pour toi. Il est la lumière du monde et ce matin, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le message ce matin? Maintenant, je vois, on lit dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, chapitre 9 du verset 1 à 38. Est-ce que vous êtes prêts pour une longue lecture? J'espère que vous n'êtes pas choqués qu'on lise la parole de Dieu à l'église. Ok, alors si vous n'avez pas votre Bible, il y a sur le projecteur, mais on vous défie aussi de lire l'évangile de Jean pendant tout l'été, de l'étudier à la maison, parce que non seulement Dieu a une parole pour son église, et je crois réellement que ceux qui ne viennent pas à l'église ou ceux qui se coupent de l'église locale manquent une révélation pour le corps de Christ, mais je crois aussi qu'on ne peut pas seulement se suffire d'une révélation à l'église, il faut qu'on aille chercher la parole de Dieu chaque jour. Combien sont ceux qui vont chercher la parole de Dieu chaque jour? On croit qu'on a une révélation parce que Dieu est avec nous, non seulement à l'église, mais nous sommes l'Église. Amen. Grande introduction pour laisser les personnes chercher Jean chapitre 9. On y va. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui !» D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi !» Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et qu'il avait ouvert les yeux. Ça se complique. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres dirent, « Mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y a eu division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, pour qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. Avant d'avoir fait venir ses parents, ils les interrogèrent en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents leur répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. » Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Ça, on dirait que c'est paradoxal, c'est de... S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Avec l'ironie, ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. C'est comme si c'était la pire insulte pour eux. C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Amen. Wow, long texte, mais tellement incroyable. Et tellement de questions, hein, n'est-ce pas? Je sais que dans ma tête, c'est comme, oh wow, c'est un texte qu'on ne prêche pas forcément tous les dimanches, mais quelle vérité il y a. Cet aveugle-là, il y avait quelque chose d'incroyable, parce que lorsqu'il s'est écrié « Maintenant je vois », c'était une déclaration non seulement de foi, mais quelque chose qui allait complètement diviser les gens autour de lui. Cet homme pouvait dire « Maintenant je vois », et on va voir les trois vérités ce matin. La première vérité, c'est que « Car Jésus m'a vu ». Maintenant je vois, mon premier point, c'est « Car Jésus m'a vu ». La première chose qu'on entend dans ce texte, c'est que cet aveugle était là, et Jésus, en passant à côté sans doute du village, a vu cet homme. Souvent, il y a des personnes qui rencontraient Jésus, et lorsqu'ils entendaient que Jésus était dans le village, ils criaient, ils essayaient de se faire remarquer. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas forcément se lever et aller dans la cour. Alors, ils criaient, « Jésus, je suis là, viens me voir !» Et il y en a qui sautaient sur lui, comme la femme qui veut accrocher son vêtement. Il y a toutes sortes de personnes avec toutes sortes de personnalités. Mais cet homme-là, Sans doute que Jésus passait dans le village et ça n'a peut-être pas fait une foule autour de Jésus, puis cet homme-là ne savait pas qui était là. Mais Jésus, lui, en passant, a vu cet homme. « Maintenant, je vois, car Jésus m'a vu. » Le seul du village qui ne pouvait pas voir Jésus, c'est sur lui que le regard de Jésus s'est posé. C'est incroyable parce que Jésus ne venait pas en cherchant dans le village qui pourrait me rendre populaire, qui pourrait m'impressionner. Il ne cherchait pas les choses qui frappent les yeux. Il n'était pas en campagne présidentielle pour essayer de se faire élire et puis il cherchait les gens les plus influents de la place. Quand Jésus passait dans un village, il était là pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous savez ce que c'est la bonne nouvelle ? C'est que le royaume des cieux était arrivé proche de l'humanité et il s'approchait. Dieu était venu avoir compassion de son peuple. Et compassion de son peuple voulait dire compassion des plus démunis. Cet aveugle-là, dans la société, cet aveugle ne pouvait pas travailler, ce qui fait qu'il était destiné à mendier. Il était sur un coin et puis il mendiait. C'était impressionnant parce que ces gens qui avaient, entre guillemets, le plus besoin d'aide, le plus besoin, ils étaient quand même, en fait, rejetés. Ils étaient exclus, d'une manière de dire. Il mendiait et Jésus passe, et alors qu'il voit cet aveugle, il y a quelque chose de fort qui se passe. C'est le seul qui ne pouvait pas voir Jésus, mais c'est le seul que Jésus, en passant, en dit, la Bible nous le dit, il a vu cet homme. Il était démuni. Il ne cherchait pas quelqu'un d'impressionnant, Jésus, au contraire. Il cherchait avec des yeux de compassion. Et alors qu'il passe, il voit cet homme être complètement en train de mendier, être sans doute pauvre, être quelqu'un qui était rejeté, mis de côté. Et quand Jésus passe, ses disciples commencent à avoir une discussion. C'est intéressant. Vous avez vu la discussion que ses disciples ont parce que c'était la culture de l'époque. Quelqu'un qui était malade voulait dire quelqu'un qui avait du péché dans sa vie. Ça ne vous fait pas penser à certains sectes évangéliques ? Pas sectes, mais cercles. Où parfois des gens, tu vis quelque chose dans ta foi et tout de suite, comme les amis de Job, qu'est-ce que tu as fait contre Dieu ? Oh, si tu vis ça là, c'est peut-être une malédiction de Dieu. Et parfois, il y a quelque chose d'incroyable où dans une certaine tradition ou culture ou théologie, le péché, la maladie égale le péché. Et si tu restes, entre guillemets, malade plus longtemps, et puis c'est peut-être parce que tu n'as pas assez de foi, Dieu ne veut pas te guérir parce que tu as sans doute du péché, il faut que tu travailles plus pour... Alors qu'en fait, Jésus est en train de dire complètement l'inverse. Il dit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. À l'époque, les gens disaient, s'il est né pécheur, ça veut dire que soit c'est dans le ventre de sa mère qu'il a péché. C'est quand même fort et aller loin dans la pensée. Ou soit, ce sont ses parents qui ont péché. La Bible n'enlève pas que certaines conséquences du péché sont la maladie. On n'est pas en train de dire ça. Mais pour eux, toute maladie est égale le péché. Donc chaque personne qui aurait eu besoin d'assistance, chaque personne qui avait besoin de l'aide de la communauté, était quasiment mise de côté parce que si tu es malade, c'est que tu es pécheur. Est-ce que vous me suivez ? Il y avait une distorsion là-dedans. Pourtant, ils n'avaient pas un mauvais fond. C'est juste que pour eux, ils avaient appris que c'était comme ça. Jésus vient changer les codes. Même si les disciples marchaient avec Jésus, à chaque marche, à chaque village, les disciples découvraient une fois de plus, une facette de plus de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Jésus se révèle à nouveau à vous ? Alors qu'ils marchaient, les disciples commencent à une question. En fait, on pourrait dire ça. Les disciples voyaient en cet homme un objet de discussion théologique. Jésus le voyait avec des yeux de compassion. Il disait, arrêtez avec vos discussions de c'est lui, ses parents, non, non, voici, il y a la gloire de Dieu qui va se manifester dans sa vie. Cet homme-là est malade, mais il y a une solution. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton péché, il ne voit pas ce qui te disqualifie, il voit la grâce de Dieu manifestée pour toi, pour l'humanité. Alors il ne te regarde pas comme les autres te voient ou même comme toi-même tu te vois. Il te regarde au travers de son sacrifice et ce qui fait que c'est la bonne nouvelle. Même pour toi qui te sens loin, qui te sens démuni, qui te sens complètement rejeté de tout le monde, Jésus te dit, si tout le monde te rejette, moi je t'accepte parce que ce n'est plus toi qui compte, c'est moi qui compte. Alors accepte-moi. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait toutes choses nouvelles, même pour ceux en qui il n'y a plus d'espoir? Quand tout le monde le voyait pécheur, Jésus le voyait avec des yeux de compassion. Trop souvent, quand on dit « Jésus m'a vu, que Jésus te voit », si vous avez grandi dans une famille chrétienne, peut-être vos parents vous ont menacé avec cette phrase, n'est-ce pas ? « Attention, Jésus te voit !» Vous l'avez déjà entendu, hein ? Je vois votre sourire un petit peu thérapeutique et dit « Oui, ça m'a traumatisé un petit peu. » Alors qu'en fait, c'est la plus bonne nouvelle du texte. Les yeux de Dieu sont rivés sur toi et sur moi. Quand Jésus a vu cet aveugle, ça veut pas dire qu'il ne voyait personne d'autre que lui. Ça veut dire que même s'il voyait tout le monde, son regard s'est posé spécifiquement sur cet homme. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a tellement aimé, comme on l'a chanté ce matin, il a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils pour que l'humanité entière soit sauvée. Alors il a le regard sur toi, sur moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu, ici, alors qu'on est là pour l'adorer. Jésus est ici présent par son Esprit et il nous voit. Il voit les profondeurs de notre cœur. Alors que les gens peuvent te voir dans différentes catégories de qui tu es, de qui tu n'es pas, Jésus, lui, te voit avec des yeux de compassion. Combien sont reconnaissants pour ça? Alors, la prochaine fois que vous direz à vos enfants, « Attention, Jésus te voit !» Non, il faudra dire, hey, « Eh, quelle grâce, Jésus te voit !» Et ne regarde pas juste ton péché, mais je comprends, il ne faut pas les encourager non plus à dire « fais ce que tu veux ». Mais attention avec nos leviers de négociation, ce n'est peut-être pas forcément la bonne phrase. Le regard de Dieu posé sur nous, la vie avait disqualifié cet homme, on pourrait dire, mais il a été requalifié par Jésus. Quand tu penses que tu n'as aucune chance, Dieu te positionne parfois à la meilleure place. Cette semaine, j'ai vu une vidéo d'un sportif, Stephen Bradbury, qui a fait la une des journées il y a quelques années. Et tout est expliqué dans la vidéo. C'est une illustration, mais vous allez voir le point. Quand la vie te disqualifie, Dieu te positionne à la meilleure place. On regarde ensemble Stephen Bradbury.
Il est champion olympique sans vraiment y croire. Stephen Bradbury semble presque gêné d'être là sur la plus haute marche du podium après avoir gagné la médaille d'or la plus loufoque de l'histoire des Jeux. 2002, Salt Lake City, États-Unis. Stephen Bradbury est pompier en Australie. Il pratique le short track depuis des années, mais n'a jamais accroché un podium dans une grande course individuelle. Impossible de penser que ce garçon va devenir l'un des héros des Jeux d'hiver. Dès les quarts de finale du 1000 mètres, il est distancé. Bradbury, maillot vert, est en dernière position à 50 mètres de l'arrivée et seuls les deux premiers vont en demi-finale. Mais devant lui, deux concurrents se gênent, l'un finit à terre, l'autre est disqualifié, et Bradbury décroche une place en demi-finale. Justement, en demi-finale, rebelote. Bradbury, toujours en maillot vert, est à la traîne et dans le dernier tour, il profite à nouveau d'un incident de course et se qualifie in extremis. Deuxième course et deuxième chute juste devant l'Australien qui a eu le mérite de rester sur ses patins. À la surprise générale, l'Australien accède donc à la finale olympique. Là encore, il est distancé. Il accuse un sérieux retard jusqu'aux 100 derniers mètres dont les images vont faire le tour du monde.
Quand tous les autres sont tombés, j'étais tellement surpris d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Et je me suis dit, mais attends, j'ai gagné là ou quoi? Évidemment, j'ai des sentiments un peu mitigés. Je sais très bien que je n'étais pas le meilleur dans cette finale. Mais gagner une médaille d'or, ça reste extraordinaire. Et je ne vais pas la rendre, croyez-moi.
Jamais un Australien n'avait remporté une médaille d'or aux Jeux d'hiver.
Yeah. Quand tu penses que tu es disqualifié d'avance, et lui, un pompier, il y en a, je pense qu'ils ont dû être vraiment jaloux. Ils ont travaillé des années pour arriver là. Et à cause d'une chute, lui, c'est fort, parce que dans le reportage, ils disent, il a juste eu le mérite de rester sur ses patins. Mais parfois, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On n'est pas les meilleurs, on n'a pas été qualifiés par la vie, on vient peut-être d'une famille qui n'avait pas assez d'argent pour nous amener dans des études, et puis là on se dit, oh, on est disqualifié, on n'arrivera jamais à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais Dieu il dit, je suis au-dessus du marché, tu n'es pas obligé d'avoir tous les pions qui sont en ta faveur, parce que si tu m'as moi, je suis en ta faveur. Et cet homme-là était disqualifié par la vie, mais Jésus le voyait avec des yeux de compassion, et il dit, toi, tu es peut-être le seul dans tous ceux qui se pensent être qualifié. Puis il y avait des pharisiens qui étaient là, il y avait des gens de haut rang spirituel, avec un orgueil religieux, avec quelque chose de fort. Mais il dit, c'est toi aujourd'hui qui vas gagner la médaille d'or. Et c'est ça que Dieu veut dire, et puis je veux le dire à quelqu'un aujourd'hui. Quand Jésus te voit, il ne te regarde pas, il ne regarde pas ce qui peut te disqualifier, il regarde ton désir d'être sauvé. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui ne regarde pas à nous, qui regarde à lui? Jésus l'a vu, mais il n'est pas resté loin de lui. Au contraire, il a fait plus que le voir, parce que lui, cet homme, « Maintenant je vois », et c'est la deuxième vérité de ce texte, « car Jésus s'est approché ». Il n'est pas seulement resté loin de cet homme en disant « Ah, voici, toi, je te vois avec des yeux de compassion ». Non, Jésus s'est approché de lui. Il n'est pas resté loin, il est venu même le toucher. Et c'est là où le texte commence à scorcer un petit peu. Quand on lit ce que Jésus a fait pour cet homme, on est comme, ah, ouais, ok, ça a l'air un petit peu weird, n'est-ce pas? Non? Non, vous, c'est comme, non, je sais exactement ce que vous dites. Pour ces personnes-là, de voir que Jésus vient toucher un homme qui est un mendiant, à la base, ça ne se fait pas. Ni dans la culture actuelle, mais non plus pour les Juifs. Quelqu'un qui est malade, qui est pécheur, qu'on le voit, c'est comme quelqu'un qu'on garde au retrait. Il y a comme quelque chose d'un peu une impureté spirituelle. Et un homme de Dieu, un rabbin, quelqu'un qui enseigne comme Jésus l'était à l'époque, pour les Juifs, c'est impossible, non seulement qu'il le voit, qu'il lui parle, mais qu'il le touche. Imaginez quelqu'un que ça fait des années qu'il est mis de côté de la société. Il n'a plus de câlin de personne, il n'a plus de gens qui sont là. Il est mendiant, il est sans doute seul, peut-être sa famille le voit comme, toi tu as une malédiction parce que regarde, si tu es aveugle, il y a quelque chose qui est mis sur toi. Alors Jésus s'approche de lui et il le touche. Imaginez, la puissance de Jésus qui met sa main sur son épaule, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais il y a comme quelque chose où le texte nous dit qu'il l'a touché. Il a touché exactement ce que les gens voyaient comme, ah, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a été maudit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a à cause de ses yeux, c'est ça sa malédiction. Jésus va exactement toucher là où ce que tout le monde lui disait, waouh, c'est à cause de ça qu'il est pécheur. Toucher quelqu'un que tout le monde voit pécheur, c'est incroyable pour le moment. Et Jésus fait quelque chose d'incroyable. Alors qu'il s'approche de cet homme aveugle, Jésus, pour le toucher, ne va pas juste le toucher ou parler. Dans les autres évangiles, si vous voyez, Jésus a guéri plusieurs malades, des gens nés malades. Et parfois, il les touche seulement, parfois, il parle seulement et les gens sont guéris. Mais là, ça va être différent. Jésus commence à prendre de la salive, à cracher par terre et à commencer à faire de la boue avec sa salive et la terre pour ensuite le prendre et le mettre et le poser sur ses yeux. C'est comme quelque chose que, même moi, en étudiant ce texte, je disais, « Ok, Seigneur, révèle-moi, il y a quelque chose de fort à savoir là-dedans, puis je veux vraiment avancer avec confiance, mais révèle-moi. » Les gens de l'époque croyaient que la salive avait, on considérait que la salive avait des vertus médicinales, spécialement pour les yeux. Et quand Jésus vient, il y a comme quelque chose qu'il est en train de recréer, de quoi l'être humain a été formé, de la terre, de la poussière, de l'argile, suivant les versions de votre Bible. Il y a comme quelque chose où Jésus, alors qu'il n'y a rien qui existe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il revient à la base d'une recréation. C'est pour ça que de sa salive, il va faire de la boue. Comme la formation de l'humanité, comme Adam et Ève ont été formés, il y a comme quelque chose de fort, alors que Jésus reprend ce même signe et il la pose sur ses yeux. Amen. Dieu prend ce qui est le plus simple en nous, la chose la plus de base de l'humanité. Mais il y met son ADN, il y met ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu avec ce qui est rien pour moi devient quelque chose qui redonne la vie. Jésus dit aujourd'hui, et puis c'est une image de cracher, de faire la boue et de mettre sur les yeux. En fait, ça a choqué tout le monde autour sans doute. Imaginez, vous seriez là, même si vous savez que Jésus est quelqu'un qui fait des miracles. Waouh, c'est quelque chose, tu le suis comme, qu'est-ce qui va se passer dans ce village? Mais s'il fait ça devant toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Jésus est en train de faire ça, puis ça choque tout le monde, sauf l'aveugle. L'aveugle ne se débat pas en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Non, au contraire. Ce qui est fou, parce que ça dérange tout le monde, sauf l'aveugle. Son attention n'était pas sur la méthode de Jésus, mais sur les paroles de Jésus. Et des fois, on se bloque à la méthode en disant, oh, regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend autant de temps pour avoir mon miracle? Pourquoi il y a quelque chose? On regarde plus la méthode que sur le miracle. Comme ce que les pharisiens vont faire. Au lieu de voir l'homme qui a été guéri, ils vont voir la méthode que oh, c'était dans le sabbat qu'il avait fait. C'est pour ça que ça ne doit pas fonctionner. Il faut que ce texte nous dise, même si parfois Jésus, Dieu, passe par des moyens différents pour nous donner ce qu'il nous a promis, pour faire en sorte que notre miracle apparaît. Même si la méthode paraît un petit peu différente de ce qu'il a déjà fait ou ce qu'on a déjà entendu de lui, il est le maître et c'est lui qui décide du moyen dont il nous donne le miracle. Mais nous devons rester non seulement nos yeux, pas focusés sur la méthode, mais sur ses paroles. Parce que quand Jésus est là et quand Jésus fait quelque chose, c'est jamais par hasard, c'est jamais pour notre mal, au contraire, c'est toujours pour notre bien. Ça choquait tout le monde, sauf lui. Il n'est pas parti en courant, au contraire. Il était là en attendant de dire qu'est-ce que Jésus fait en ce moment. Et sans doute, il ne devait pas savoir, il devait peut-être entendre, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais moi je suis là, je patiente, parce que même si peut-être, il y a peut-être des gens à ce moment-là, quand ils ont vu Jésus faire ça, ils ont dit « Oh, ça c'est n'importe quoi, je pars. » Et ils ont raté le miracle parce qu'ils se sont arrêtés à la méthode. Ne nous arrêtons pas à ce qui peut nous paraître différent. Est-ce qu'en ce moment tu te dis « Pourquoi ça prend autant de temps ? J'ai prié Dieu, puis je sais que Dieu a mis un rêve dans mon cœur, mais là il y a comme une patience. » Mais Dieu travaille ton cœur en ce temps-ci. Il est souverain de tout. Si ça n'arrive pas pour toi, c'est qu'en ce moment, Dieu il dit « c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite ». Mais ne t'arrête pas à la méthode, ne t'arrête pas au temps qui passe. Peut-être tu te dis « j'avais un grand ministère avant, et là je dois recommencer à servir simplement dans une église où on ne me connaît pas. Mais pourquoi je devrais passer par là ? Pourquoi on ne peut pas me reconnaître tout de suite comme quelqu'un ?» Mais parce que Dieu travaille d'une manière pour peut-être travailler ton cœur, pour t'amener encore plus loin, pour ouvrir tes yeux sur quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Pour t'enlever quelque chose que peut-être Dieu disait, mais tu ne pourras pas me servir en ce moment dans cette saison avec ça. Ne t'arrête pas à la méthode alors qu'il y a le miracle juste à côté. Continue, persévère, parce que si Dieu t'a amené ici, si Dieu commence à travailler ton cœur et que tu vois qu'il y a quelque chose, il faut que tu l'écoutes, peu importe ce qu'il dit. Peu importe si ça paraît étrange ou pas, suis ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un qui a déjà vécu la patience et la persévérance peut applaudir notre Dieu qui fait tout pour notre bien ? Attention à ne pas rater le miracle quand on juge la méthode ou le temps que ça prend. Pourquoi je devrais pardonner alors qu'il n'est même pas venu me demander pardon ? Pourquoi Dieu me demande de faire un pas vers lui alors que moi, j'ai tout fait, puis là, c'est lui qui m'a blessé, alors qu'en fait, ça serait lui. Je vais attendre que ce soit lui qui vienne. Puis la parole de Dieu, elle dit non, ça paraît étrange à la société, ça paraît étrange à notre éthique, mais c'est comme ça que je veux que tu avances. Je veux comme ça que tu témoignes mon message. Je veux que tu montres que tu es justement différent d'un monde qui dit, regarde, il t'a fait ça, venge-toi. Œil pour œil, dent pour dent. Non, vous avez entendu ça avant. Jésus n'est pas venu contredire la loi, il est venu accomplir la loi. Alors si Jésus te dit aujourd'hui quelque chose, il faut que tu l'écoutes, même si ça ne fait pas forcément du sens en ce moment dans ta situation. Ne fixe pas les yeux sur la méthode, fixe ton oreille sur la voix de Dieu et sur sa parole. Il a demandé un pas de foi à cet homme. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé, c'est ce qui veut dire envoyé. Il y avait quelque chose de fort parce que le seul homme qui ne peut pas y aller facilement, c'était cet homme-là. Le seul homme qui, sans doute, je ne sais pas s'il savait où c'était le réservoir de Siloé, mais il n'a pas juste dit, va juste là, il y a une fontaine. Il a dit, va au réservoir de Siloé. Il aurait pu le guérir tout de suite en disant une parole, en le touchant, Il n'aurait pas eu besoin de faire ça, mais Jésus a fait ça peut-être pour montrer à tous ceux qui voyaient, qui pensaient voir. Vous pensez voir, même les disciples, qui a péché, lui ou pas. Vous pensez tous voir, vous avez vos yeux, mais en fait vous êtes aveugle. Et lui qui est aveugle, suit ma voix, peu importe ce qui se passe, c'est lui réellement qui voit. Et quand il va dire « maintenant je vois », c'est quelque chose de fort, parce que tout le monde dit « mais est-ce que moi j'aurais eu sa foi pour faire ça ? Ou je me serais arrêté ?» Dieu, même quand il te donne un miracle, même quand il te donne quelque chose, un ministère, quand il te donne un don, il y aura un pas de foi. Il y aura un pas de foi pour que tu puisses dire, moi je veux recevoir, je veux écouter sa parole. Toute la grâce vient de lui, mais il me demande d'obéir à sa voix. Peu importe ce qu'il me demande, je le fais. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas juste dire, j'ai reçu Jésus, mais ça, ben, c'est pas grave, je mets de côté. Non, Dieu te parle au travers de ça. Il ne voulait pas juste lui mettre de la boue sur les yeux. Il voulait qu'il reçoive clairement et parfaitement son miracle. Mais ça prenait un pas de foi pour cet homme pour dire, écoute et continue à faire. Même si tu ne l'as pas maintenant, quand tu vas aller, tu seras guéri. Et cet homme-là, il n'a pas dit, peu importe combien de temps ça prend, est-ce que c'est difficile, qui va m'amener, c'est quoi tous les problèmes qu'il y a. Non, il a dit, si Jésus m'a dit ça, je fais ce qu'il m'a dit parce que moi, je veux mon miracle et je ne m'arrêterai pas à la méthode. Ça demande un pas de foi, une patience et une persévérance. Tu as juste à obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole est révélée dans sa Bible. Voici comment comprendre les difficultés. Alors que je parlais avec quelqu'un récemment qui disait « Je vis la pire saison de ma vie. Puis je suis Dieu, j'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut. Puis il y a juste bad luck après bad luck. Mais qu'est-ce que je dois comprendre ?» Et puis c'était vraiment quelqu'un qui était désespéré, quasiment découragé. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est la bonne nouvelle même dans nos moments d'épreuve, même lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Voici 1 Pierre 1, 6, 7 qui dit « Ce qui a fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Si en ce moment, tu passes par une saison difficile où tu te dis, je fais tout ce qui est droit devant Dieu, puis je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Et puis il y a quelque chose où tu es frustré, où tu es déçu, où tu commences vraiment à être en colère contre Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il faut que même dans cette vie, malheureusement, on est dans un monde chuté, on vivra des moments difficiles. Alors que Dieu, ce n'était pas son désir à la base, mais le péché est entré dans le monde avec la souffrance, la mort, les maladies, et puis tout ce qui est mauvais vient du péché. Mais la bonne nouvelle de Dieu, il est en train de nous dire que malgré les situations difficiles, malgré les moments compliqués, la souffrance, parfois de vivre le deuil, la maladie, des choses comme ça où on se dit mais pourquoi on vit ça ? Dieu il dit, si tu mets ta foi en moi, cette épreuve-là va être pour te purifier, comme l'or qui, si tu veux l'or le plus pur, tu le chauffes. Et au plus tu le chauffes, au plus les impuretés remontent, les orfèvres font cela, ils chauffent l'or, les impuretés remontent à la surface, ils enlèvent les impuretés et ils chauffent plus fort. Et plus ils chauffent, au plus l'or devient pur. Nous ne voulons pas passer par les moments difficiles, mais on s'entend que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, parce que quand tu mets ta foi en Dieu en disant, je ne sais pas ce qui se passe, je suis en miettes, je suis des cendres, mais je te les redonne, puisque Jésus a fait, même avec de la poussière, il peut le faire avec des cendres. Une fois qu'il met sa salive, une fois qu'il va donner ce qu'il a de meilleur, nous, il va nous faire revivre, et nous, et notre appel, et nos promesses. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait toutes choses pour notre bien, même si on ne comprend pas le timing? Il faut qu'on ait confiance en Dieu parce que lui, malgré les épreuves, nous fait sortir plus fort. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu aujourd'hui? Alors reste accroché, comme on l'a vu la semaine dernière. Parce que même si en ce moment tu es frustré, puis il y aurait une raison peut-être, tu as travaillé fort, même tu as prié fort, mais ce n'est pas arrivé comme tu le voulais. Ok, ben si tu te décroches de Dieu, puis que tu commences à dire, hey, je ne crois plus en Dieu, en quoi vas-tu croire? Qui va te donner une meilleure réponse? L'univers? Les énergies quelque part? Ou complètement l'athéisme de dire « Non, il n'y a plus rien, je ne crois en plus rien. Est-ce que ça va résoudre ton problème ?» Non. La seule chose que nous devons faire, c'est que nous aurons tous des incompréhensions. Même les disciples qui étaient proches de Jésus avaient des incompréhensions, des doutes. Mais ils ont décidé de dire que « Peu importe si je n'ai pas les réponses dans cette vie, je vais poser ma foi selon la parole de Dieu. Entre les mains de Dieu, je vais lui dire « Seigneur, travaille mon cœur pour que malgré les difficultés, je ne recherche pas plus le confort que la foi et la communion avec toi. Parce que je ne comprendrai pas tout sur cette terre. Mais un jour, à l'avènement du Seigneur Jésus, quand mes maladies ultimement seront guéries à ce moment-là, celles qui n'ont pas été guéries ici, quand mon corps qui est complètement malade sera complètement régénéré, ramené à nouveau, une recréation, quand je serai avec un corps glorifié dans la présence de Dieu, tout ce que j'ai vécu, mes larmes seront effacées, il n'y aura plus de peine, plus de stress, plus de choses, plus de maladies, et tout ce que j'ai vécu, ma foi, aura fait de moi quelqu'un de plus pur spirituellement. Vous me comprenez? Il nous justifie, mais nous devons travailler pour que nous puissions rester accrochés à lui. Et tout cela fera que je pourrai donner la louange, la gloire et l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Alors reste accroché malgré les situations. Le troisième point, alors que je vais inviter les musiciens à revenir ici avec moi. Jésus a guéri cet homme physiquement, mais Jésus voulait plus que sa guérison physique. C'est pour ça que cet homme s'est écrié « Maintenant je vois » et c'est le troisième point « Car Jésus m'a trouvé ». On voit dans le texte que Jésus guérit cet homme physiquement. Et alors que cet homme repart, il va à la fontaine de Siloé, il se nettoie, il voit. Et là, il y a un témoignage incroyable, mais Jésus n'est plus là. Jésus a continué sans doute, il a peut-être été dans un autre village, il a peut-être été manger, c'était peut-être sa pause lunch, oui, parce que Jésus était 100% Dieu, mais 100% homme. Alors il y avait un horaire comme ça, et puis on perd de vue Jésus. Et là, cet homme va à la synagogue. Il va vouloir donner la gloire à Dieu. Mais les hommes religieux à cette époque-là, eux, sont tellement contre Jésus, ils ne veulent rien savoir avec Jésus. Même ils auraient vu le ciel descendre sur terre, ils n'auraient pas cru. Il y a quelqu'un qui dit à la blague, il dit, ils auraient vu Jésus marcher sur l'eau, ils lui auraient dit, c'est parce qu'il ne sait pas nager. Il y a comme quelque chose, ils trouveraient tout le temps une faute à Jésus. Alors même quand ils voient un aveugle, ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas comprendre. Ils font venir leurs parents. Allez, dites-nous que ce n'est pas lui. Oui, c'est lui. Mais non, mais vous aussi. Puis même les parents commencent à avoir peur. Il ne faut pas dire des mauvaises choses parce que là, rien. On va se faire exclure de la synagogue. Là où tu devais célébrer Dieu le plus, c'est là où Dieu est fermé. Il y a comme quelque chose où ça ne marche pas. Et alors, à ce moment-là, il est rejeté. C'est fort parce que le texte relisait à la maison. C'est l'aveugle qui est pécheur, qui est exclu de tout, qui enseigne les pharisiens. C'était celui qui était rejeté que la parole de Dieu s'est révélée à lui pour qu'il enseigne les pharisiens. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a quelque chose d'incroyable. Et alors qu'il est rejeté de la synagogue, Jésus entend qu'il a été rejeté de la synagogue. Jésus le savait, hein. Jésus n'a pas été surpris. « Oh, waouh, je ne savais pas. » Non, au contraire. Mais alors que le texte nous dit, verset 35, « Jésus apprit qu'il l'avait chassé. » L'ayant rencontré, vous savez pourquoi il l'a rencontré? Il ne l'a pas rencontré au coin de la rue. Si Jésus savait qu'il avait été rejeté et que lui l'a trouvé, il l'a trouvé parce qu'en fait, il le cherchait. Il cherchait cet homme qui avait complètement eu un miracle incroyable, mais qui avait encore des questionnements. Il a dit, « Maintenant, je vois. » Mais Jésus disait, « Tu ne vois pas exactement comme je voudrais que tu vois. Tu vois physiquement, mais ce que j'ai pour toi, c'est que tu vois spirituellement. » C'est pour ça que cet homme, à la fin, dit, « Mais est-ce que, qui il est, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Il a dit, « Tu l'as vu. » En fait, il l'avait vu avant même de le voir, mais tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Même quand les gens, même quand la religion te rejette, même quand tu as un témoignage véridique, un vrai témoignage, quand tu repars dans ta famille et que tu te dis, Jésus, j'ai trouvé Jésus-Christ, il a transformé mon cœur, je me sens libre de mes péchés. Et puis, ça ne se voit peut-être pas physiquement, mais les gens, même s'ils savent qu'il y a quelque chose de fort, il y en a qui vont dire, non, ce n'est pas vrai. T'es rentré dans une secte, t'as vécu un truc un peu psychédélique, mais il y a des gens qui vont ne pas croire à ton témoignage. Il y a même des gens qui vont se dire, non, ce n'est pas vrai, on veut te rejeter même. La religion peut te rejeter, mais Jésus te cherche quand même. Quand tout le monde te rejette, Jésus dit, même s'il te rejetait avant et que tu vis ton miracle et que maintenant tu es encore rejeté, moi je te cherche et je vais te trouver. Jésus cherchait cet homme quand il a été rejeté de la synagogue. Il a été rejeté spirituellement. Jésus était en train de penser sans doute, il disait, ce miracle-là, et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus il a dit, je ne ferai plus d'autres miracles. Il le dit à un moment donné dans les évangiles. Quand les gens disent, ouais, mais fais encore un miracle, il dit, vous n'en aurez pas d'autre que celui de Jonas. En parlant de sa mort et sa résurrection. Parce que même les miracles, pour les gens qui ne veulent pas voir la lumière, Jésus dit, ça ne sert à rien les miracles. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos cercles d'église qui cherchent les miracles à profusion. Mais si la bonne nouvelle de Jésus qui est le sauveur, pas seulement le guérisseur, qui est le sauveur, n'est pas prêchée, à quoi servent les miracles? On pourrait tous guérir de toutes nos maladies. Mais si on n'est pas sauvé, on est guéri, mais on meurt spirituellement pour l'éternité. Alors que peu importe si je reçois, mais je crois au miracle. Vous êtes dans une église qui prie pour les malades, qui croit au miracle et qui voit des miracles. Mais toutes les personnes qui sont dans cette vie ici n'auront pas forcément leur guérison ultime avant le retour de Jésus. Ça veut dire que peut-être que je terminerai ma vie, ma saison de vie ici, peut-être dans une maladie, peut-être dans une... Mais ce que je sais, c'est que mon âme, elle, n'est plus malade. Et si elle est en Christ, c'est une nouvelle création, ce qui fait que même si ce corps meurt, mon âme vivra à jamais avec l'Éternel des armées qui lui a combattu et il a pris sur lui le péché, la maladie. Alors je n'ai pas forcément besoin de voir toutes les réponses à mes questions ici, parce qu'une fois que je termine mon passage ici sur cette terre, qui est très court en passant, je vivrai avec lui pour l'éternité. Alors je ne fixerai pas mes yeux, mon temps sur ma frustration, à pourquoi j'ai pas ce que... Non, je continuerai, comme la parole de Dieu a dit, à demander à Dieu, à ne m'inquiéter de rien, et je recevrai une paix qui vient de Dieu en toute chose. Mais je garderai mes yeux et mon cœur pour Jésus-Christ, lui seul. Je ne ferai pas une distance en disant, oh mais comment ça a été fait? Non, même si tu as été rejeté de certains cercles théologiques ou même certaines églises, Jésus te cherche et Jésus veut te trouver. Parce qu'il a quelque chose de plus pour toi que juste ton corps qui soit guéri. Il veut que ton âme soit guérie. Quand les doutes étaient là, quand cet homme même il disait, mais qui t'a guéri? Mais je ne sais pas. Qui dis-tu qu'il est? Il est sans doute un prophète. Même quand lui ne savait pas exactement qui était Jésus, Jésus est venu se révéler encore plus à lui. Il a eu une rencontre et deux rencontres avec Jésus. Il a tout compris à la deuxième rencontre. Est-ce que tu as encore besoin en ce moment de marcher, d'aujourd'hui entendre ce message? Parce que Dieu veut se découvrir, veut se révéler une fois de plus. Jésus est allé mourir à la croix pour les péchés de tout le monde. Pour oui, cet homme-là, pour l'orgueil spirituel que ces pharisiens avaient, Pour tous les péchés de l'humanité, et même ceux qui ont rejeté cet homme, Jésus disait, dans quelques temps, je m'en vais à la croix pour porter les péchés de tout le monde. La culpabilité, le rejet, la condamnation. Et c'est pour ça qu'à cet homme, il va se révéler en disant, je suis ce sauveur-là. Quelle grâce incroyable. Cet homme-là avait peut-être plein de questions durant sa vie, Mais Jésus était la réponse à cet homme-là. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, ouvre les yeux à la grâce de Jésus-Christ. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi, ce que toi tu dis de toi-même, ce que tu penses être disqualifié. Jésus te dit, fais juste venir à moi et je vais ouvrir tes yeux. Si tu ne vois pas aujourd'hui certaines choses, je suis la lumière du monde. C'est moi qui, durant le jour, c'est pour ça que Jésus le dit, il faut que je travaille durant le jour parce qu'une fois la nuit est arrivée, personne ne peut travailler. Il parlait du temps sur cette terre qui un jour allait se terminer. C'est pour ça que si tu es là aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Jésus ne te condamne pas. Jésus veut te sauver. Même quand les pharisiens ont rejeté cet homme de la synagogue, Jésus avait sans doute de la compassion dans son cœur pour ces hommes qui l'avaient rejeté. Parce qu'à la croix, il est mort pour ce rejet qui venait de le faire. C'est incroyable. Jésus était... Si les pharisiens avaient comme ennemi Jésus, Jésus n'avait pas comme ennemi les pharisiens. Il est mort pour leur faute également. Il est mort pour leur péché. Il les aimait. Alors si en ce moment tu te dis, mais je suis tellement loin de Dieu que je dois sans doute être un ennemi, Jésus te réconcilie avec Dieu. C'est pour ça que tu as besoin de venir encore aujourd'hui à la croix. Jésus en ce moment-ci, il était en train de dire à tout le monde, le royaume de Dieu est venu auprès de vous. Mais je m'en vais à la croix, je m'en vais mourir et souffrir pour que vous ne puissiez plus jamais souffrir éternellement. Et alors qu'on est ici, peut-être que tu connais Jésus depuis longtemps, mais tu as peut-être encore besoin qu'il ouvre tes yeux sur une nouvelle facette de lui. D'arrêter de dire aux gens, ouais, mais ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu, est-ce que ça c'est son péché, est-ce qu'il est malade parce qu'il est pécheur, est-ce que... Non, t'as besoin juste de venir à Dieu. Seigneur, au lieu de discussion théologique, donne-moi des yeux de compassion pour que je puisse voir ce monde, les gens qui viennent ici, comme tu les vois. Aide-nous à être une église, Seigneur, qui ne rejette pas les gens parce que voici, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Au contraire, Seigneur, montre-nous, donne-nous de rendre gloire à Dieu dans tous nos témoignages. Seigneur, donne-nous d'être une église qui avance ensemble, qui ne fait pas de « non, toi, tu dois être rejeté de l'Église, au contraire. » Et alors qu'on va prendre la communion dans quelques instants, la communion se prend ensemble, en un seul corps. Tu ne viens pas juste ici pour connecter avec Dieu, tu viens pour connecter avec les uns et les autres. On ne veut rejeter personne ici dans cette Église. Au contraire, on veut, comme Jésus, dire « si tu as été rejeté, ici, tu es le bienvenu. » Si tu n'avais plus de maison et que tu mendiais dans la rue spirituellement, ici, tu es le bienvenu. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Combien sont reconnaissants pour une église locale? On veut avoir les bras ouverts, peu importe qui tu es. Peu importe si tu dis en ce moment, j'ai tellement de questions, j'ai tellement de péchés. Aujourd'hui, si tu viens à Christ et que tu lui demandes pardon pour tes péchés et que tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur, tu deviens blanc comme neige. Ça veut dire que ton casier qui était rouge, qui était noir, qui était tellement sale, Jésus dit, j'efface tout ça. L'ardoise est effacée. Aujourd'hui, tu repars à zéro. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait toutes choses nouvelles? Est-ce que je peux vous demander de juste fermer les yeux alors que je vais prier pour peut-être des personnes ici qui ont besoin, comme cet homme, de dire, je ne sais pas qui il est. Je vois qu'il fait des choses magnifiques, mais j'ai besoin de le voir spirituellement. Le désir de Jésus aujourd'hui, c'est que toi aussi tu t'écris, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Mais le voir spirituellement, la Bible nous dit que nous ne voyons plus Jésus aujourd'hui en chair et en os, mais nous devons le voir par les yeux de la foi. Alors que Jésus était sur cette terre, il y a des gens même devant lui qui doutaient de qui était. Il dit, maintenant tu m'as vu et tu crois, mais heureux sont ceux qui croiront sans m'avoir vu. Aujourd'hui, on ne le voit pas en chair et en os, mais par nos yeux spirituels, on le voit. Et si aujourd'hui, tu dis, mais je ne connais pas ce côté-là spirituel, j'ai jamais vu vraiment c'était quoi le monde spirituel. Aujourd'hui, fais juste ouvrir ton cœur en disant, Seigneur, Jésus, je ne te connais peut-être pas, mais toi, tu me connais. Et tu m'as vu. Avant même que je rentre ici, avant même que je décide de venir à l'église, toi, tu me voyais là où j'étais. Et c'est toi qui es venu me chercher. Si tu crois que tu es venu à l'église par toi-même, non, c'est Dieu qui t'a amené ici parce qu'il te cherchait. Alors pendant ce message, et c'est notre désir ici de ne condamner personne, mais au contraire d'offrir la bonne nouvelle à chaque personne parce que Jésus aime tout le monde. Il a donné sa vie pour que tu puisses être en relation avec lui. Mais il faut juste que tu viennes et que tu acceptes sa grâce. Jésus dit, j'ai donné ma vie à la croix. Mon corps et mon sang ont été complètement donnés pour que l'humanité le reçoive. Et trois jours après, je suis ressuscité pour donner l'espoir que cette vie ici n'est pas la finalité. Il y a une éternité avec moi. Je ne veux pas que vous soyez séparés de moi. Je veux que vous soyez en moi, avec moi pour toujours. Si c'est ton désir aujourd'hui, que tu sais que tu as besoin d'un sauveur, mais que tu dis, je connais pas la méthode que Dieu va utiliser pour me sauver ou pour me donner un miracle, pour me guérir, pour me faire voir, mais je veux écouter sa parole et je veux le suivre comme lui veut que je marche. Si c'est ton désir aujourd'hui, si tu dis, je veux demander pardon à Dieu pour mes fautes, mes péchés, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé et je veux le suivre. Tout ce qu'il dit, je veux l'écouter et je veux obéir. Si c'est ton désir, alors qu'il y a tout le monde qui a les yeux fermés, c'est pas un spectacle, c'est entre toi et Dieu. Mais juste si c'est ton désir, tu dis « Oui, moi, c'est ma prière. » Fais juste lever la main là où tu es. Et chaque semaine, il y a des dizaines de personnes qui donnent leur vie à Dieu, qui reviennent à Dieu. Merci pour les mains qui se lèvent. Parce qu'on croit que l'Église est le lieu où on proclame la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans un monde qui est confus, qui est perdu, la lumière brille ici et les gens la reçoivent. C'est pour ça que lève la main si tu as accepté Jésus aujourd'hui. Si tu dis « Moi, je veux demander pardon à Dieu et je veux être complètement changé. Je veux voir qui est le Fils de Dieu. Je veux voir qui il est en moi. Je veux voir qui je suis en lui. » Seigneur, je te prie et je te remercie pour les mains qui se sont levées dans ce lieu. Merci parce qu'à chaque fois qu'on proclame la liberté, la vérité, merci parce que tu donnes une liberté. Merci parce que tu enlèves les écailles de nos yeux et nous pouvons voir qui tu es. Montre-nous encore plus, Seigneur, qui tu es en nous, qui nous sommes en toi. Que ton amour soit révélé au travers de nous. Merci pour les mains qui se sont levées, merci pour les cœurs qui sont venus à toi. Seigneur, merci pour une église qui avance et qui ouvre les bras à chaque personne, rejetée ou pas par la religion. Seigneur, toi, tu les acceptes. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et nous te remercions. Et tout le monde dit un grand amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu a fait ce matin et les âmes qui ont été sauvées? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et alors qu'on va prendre la communion, je vous invite à prendre le pain et le vin. Et ensemble, alors qu'on voit que Jésus ne faisait exception de personne, qu'on puisse venir en disant, Seigneur, aide-moi à obéir à ta parole encore plus, encore mieux. Donne-moi une soif de toi encore plus. Alors qu'on prêche la croix, qu'aujourd'hui elle puisse être le centre de nos vies. Et alors qu'on va prendre le pain, c'est l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 23, qui dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur tout ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Mangeons ensemble. Demain, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Aide-nous à chanter, à célébrer la croix. Aide-nous à célébrer, Seigneur, ta vie en nous. Merci parce que tu nous as sauvés et aujourd'hui tu es le centre de nos vies. Et reçois ce chant comme une adoration, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Qu'on puisse chanter ce chant, grâce infinie de notre Sauveur. Il y a quelques minutes avant de quitter cette réunion, mais qu'on puisse vraiment chanter ce chant comme une prière. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer le nom de Dieu, le nom de Jésus qui sauve, qui guérit, et qu'on puisse ensemble chanter « Maintenant, je vois ».